19h15 en ce lundi 18 janvier 2021 sur Neptune FM, place aux vœux du maire de l'Île-Dieu, Bruno Nourry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes accompagné de Carole Charot, première adjointe à la mairie de l'Île-Dieu. Bonjour.
Bonjour.
Et conseillère départementale. Il sera aussi question durant cette émission de projets municipaux en cours et à venir. Après un début de mandat sous Covid, dans quel état d'esprit abordez-vous cette année 2021, Bruno Nourry?
Début de mandat sous Covid, mais ça continue sous Covid, donc c'est un peu complexe à gérer parce que les façons de faire sont différentes. Il y a beaucoup de réunions en visio, par exemple. Donc c'est un peu complexe. Maintenant, on est confiant, on met en œuvre notre programme et donc on a eu un peu de retard à l'allumage avec le premier confinement, mais là on est en ordre de marche, donc on est plutôt confiant.
Carole Charot, première adjointe, dans quel état d'esprit êtes-vous également en ce début d'année 2021?
Moi j'ai beaucoup d'espoir. Ça y est, tout se met dans notre tête, ça y est, les conseillers municipaux, les adjoints sont mis en place, donc on a plein de projets, plein d'envies, il y a les projets municipaux qui vont sortir de terre, c'est chouette, on va pouvoir exprimer tout ce qu'on veut, donc on va essayer de mettre en œuvre tout ce qu'on avait envie de mettre en œuvre.
On vient d'entendre, beaucoup de projets sont en cours et à venir. Les travaux de la mairie de Port-Joinville seront finalisés quand, Bruno Nourry?
Ils seront finalisés cet automne. Hein. Là, on est encore sur le gros œuvre jusqu'à la fin de l'hiver. Ensuite, il y aura tout le second œuvre. Et puis, on devrait rentrer à l'automne, octobre, peut-être novembre, enfin voilà, après l'été.
Le coût de cette mairie, on peut l'annoncer dès aujourd'hui ou il y a toujours des budgets qui ne sont pas finalisés?
Il est public, je ne suis pas revenu avec les chiffres, mais c'est un plan de financement qui est évolutif, hein, parce que de toute façon, il y a, sur des travaux de rénovation, il y a toujours des petites surprises. Il y a des choses qui évoluent, on avait imaginé ça comme ça, finalement on change un peu. Des plans de financement aussi en termes de recettes qui évoluent. Par exemple, on a eu l'année dernière de la DETR, des fonds préfectoraux sur la mairie. Et donc, on fera le point le moment venu. Mais on avait eu pas mal de financements concernant la rénovation thermique, parce qu'on était territoire à énergie positive pour la croissance verte. Pour rappel, il y avait à peu près 200 territoires qui étaient estampillés en France, donc ça nous avait permis de flécher pas mal de subventions sur ce projet. Et puis après, on travaille avec les contrats régionaux aussi sur cette question-là. Et on est un peu au-delà de 50% de subventions en mémoire. Donc, cette recherche de financement, elle est toujours importante pour que les projets sortent. Et on y met un point d'honneur, et puis on est assez reconnu comme ça au niveau de la préfecture à rechercher les financements jusqu'à aller gratter les fonds de tiroir. Mais bon, c'est important pour que les projets se fassent. On sait que sur une île, les projets coûtent plus cher, donc ça nous oblige aussi à faire ce travail-là. Donc j'ai pas le chiffre global, et puis... parce que c'est, comme je dis, c'est évolutif, mais bon...
On aura le temps d'en reparler.
Voilà.
Côté culture, où en est le projet de pôle culturel au Petit Chiron?
Alors sur ce projet-là, on avait fait le programme. Alors pour rappel, ce programme concerne d'abord la relocalisation du service patrimoine qui est aujourd'hui au fin fond du pôle économique. C'est pas sa place. Hein. Le patrimoine, c'est ce qui fait l'identité culturelle de l'île. Donc c'est important que les gens puissent se l'approprier, d'avoir un lieu pour faire les expositions, pour travailler sur les différents domaines.
Retrouver des archives.
Je vais en parler après. Travailler sur la mémoire, hein, le service patrimoine fait du recueil de mémoire. Travailler sur de l'archéologie, etc. Pouvoir entreposer un certain nombre de pièces, avoir des ateliers sur place. Des espaces d'exposition, hein, c'est important aussi de pouvoir exposer que ce soit
des photos du monde maritime par exemple,
des photos, il y a différentes expositions On y adjoint la bibliothèque, parce que la bibliothèque aujourd'hui est à l'école de Ponant, elle est petite. Pour autant, l'école de Ponant est un peu pleine comme un œuf, donc c'est important qu'on puisse libérer les espaces et les redonner à l'école. On y adjoint aussi les archives municipales. On avait imaginé dans un premier temps les mettre au nouveau centre technique municipal. Ce faisant, on aurait des archives mortes. Alors certes, le permis de construire de Monsieur Machin, délivré en 1977, tout le monde s'en fout. Par contre, dans les archives, il n'y a pas que des archives administratives, il y a aussi des archives patrimoniales.
Notamment du monde maritime, non ?
Entre autres, mais pas seulement. Sur ces archives patrimoniales, on a beaucoup de rapports d'études divers et variés hein, sur l'île. On a des correspondances, on a des photos, on a des fonds privés qui ont été donnés à la mairie.
Donc, notamment les fonds de Maurice Essel ?
Oui, fonds de Maurice Essel, c'est on a une convention et ils sont transmis à la commune quand l'équipement sera fait. C'était aussi une condition. Moi, je comprends Maurice Essel, il n'a pas envie que ces archives, si elles sont données à la commune, finissent au fond d'un tiroir. Donc, il faut pouvoir les restituer au public et pour ça, il faut un lieu pour les mettre. Et finalement, ce lieu où on va avoir le service patrimoine, les archives et la bibliothèque, on a un ensemble qui est cohérent. Alors, on y adjoint aussi l'espace numérique régional, hein, qui est actuellement au pôle économique. En l'estampille Fab Lab, c'est un peu...
c'est un grand mot.
Oui, c'est un grand mot, c'est le mot du moment, mais qu'est-ce qui se cache derrière ? En fait, c'est que derrière le numérique, c'est plus seulement de l'apprentissage de l'ordinateur, mais c'est aussi l'apprentissage de technologies, qu'elles soient audiovisuelles. On a des jeunes de Lille, par exemple, qui réalisent des petits films, on a Uya Film, on aura le cinéma à côté, donc voilà, c'est un ensemble.
C'est une passerelle entre les deux.
Et puis Fab Lab aussi, c'est une nouvelle technologie. Je pense à de l'impression 3D, par exemple, pouvoir se familiariser avec ça, se familiariser aussi avec la programmation informatique.
Alors, faire du codage.
Faire du codage.
Monter ouais, des important. Sites internet, des applications sur mobile, j'en passe des meilleurs.
Par exemple, et puis on peut se dire, ouais, mais moi, mon gamin, il va faire tel ou tel métier, il n'en a pas besoin. Bah, si, je prends un menuisier aujourd'hui, bah, faut qu'il sache faire de la commande numérique et... Donc c'est important d'amener notre jeunesse à mieux appréhender ces nouvelles technologies.
Et c'est l'avenir en plus.
Ouais, c'est l'avenir. Ouais. Et donc à côté, jouxtant ce pôle, on va remettre les trainbots. Donc pour rappel, c'est la tranche d'âge, enfin le centre de loisirs de la tranche d'âge des 9-12 ans. Pourquoi cette tranche d'âge ? Parce que cette tranche d'âge, c'est celle qui est le plus à même de s'approprier, qui est en soif de connaissances autour du patrimoine, de la lecture, de nouvelles technologies, de l'audiovisuel, etc. Et donc de l'amener à côté de cet espace culturel, voilà, on va amener de vrais nouveaux horizons pour notre jeunesse.
Et les personnes âgées également seront pas loin.
Oui.
Est-ce que ce sera un lieu multigénérationnel ?
Oui, bien sûr, c'est sa vocation. Hein. Et du reste, l'emplacement n'a pas été choisi au hasard. Hein. Nous, on trouvait ça bien de mettre à côté de l'EHPAD, parce que le service patrimoine fait du recueil de mémoire. Et donc, être à côté de l'EHPAD, c'est plutôt bien d'avoir la jeunesse aussi. Et puis encore une fois, le cinéma, enfin différents outils pour restituer le patrimoine, restituer notre culture, c'est une affaire de tous et c'est bien transgénérationnel, donc c'est pour tout le monde.
Date d'ouverture de ce pôle culturel ?
Alors, je reviens à ta question initiale qui était où est-ce qu'on en est ? Donc, on avait fait ce programme, on avait fait un jury de concours, hein, parce que c'est comme ça la technique, on a retenu... une esquisse, derrière on a travaillé dessus. On avait fait un premier plan de financement. Finalement, même quand on fait du neuf, on a des petites surprises. Et puis, à l'ouverture des plis, quand on a fait la consultation des entreprises, voilà, on était un peu au-dessus de ce qu'on avait imaginé au départ. Donc, on a refait un travail avec l'architecte et l'économiste pour... voilà, retravailler certaines parties, certains matériaux, pour faire des économies, hein, clairement, sur la construction. On a refait un tour de table des financeurs, donc aller chercher les fonds de tiroir, pour se remettre dans une enveloppe à peu près celle qu'on avait imaginée au départ. Donc là, on va passer une délibération au conseil municipal de janvier, là, très, très bientôt. Si le conseil municipal valide ce plan de financement, on pourrait démarrer les travaux très vite, à savoir au mois d'avril, pour une ouverture à l'automne 2022.
2022.
Ouais.
On reste dans la culture avec la culture sportive. Carole Charreau, première adjointe. Quels sont les projets pour le Lobim à Kerchalon?
Alors, pour le Lobim, on a reçu les associations nautiques et on leur a demandé ce qu'ils envisageaient pour ce lieu. Et en fonction de ça, on a aussi mandaté un architecte qui va travailler sur leurs besoins. Et puis ensuite, on va aménager ce lieu en fonction des besoins des uns et des autres. Mais il est à vocation des associations nautiques et à vocation aussi du service patrimoine qui fait aussi des guides, des sorties au niveau du patrimoine maritime durant l'été.
Car ce Lobim, aujourd'hui, il n'y a rien.
Il n'y a rien, il ne sert à rien. Donc c'est quand même dommage d'avoir un bâtiment qui est en face de la mer et de ne pas s'en servir.
Ouais. Vous avez une date à nous communiquer par rapport à ce Lobim pour sa nouvelle identité?
Bon, disons que l'architecte a été mis en œuvre, enfin il a été choisi. Donc après, le temps de faire, je pense que peut-être que ce sera fin 2022. On ne sait pas encore, là c'est vraiment le début.
Bon, non, juste pour rajouter sur ce que dit Carole, en fait, on n'a pas ou peu de bâtiments qui donnent sur la plage, sur la mer. Donc, on souhaitait, nous, garder ce bâtiment avec une vocation maritime, enfin, en liaison avec la plage, donc avec les sports nautiques. Et voilà, ça faisait partie des engagements qu'on avait pris. Donc,
ça pourrait être aussi une salle d'exposition de ce monde maritime? C'est pas la vocation.
Il pourrait y avoir, mais c'est pas la vocation. C'est vraiment, voilà, avoir des vestiaires, etc. Bon, il y aura un
espace. Pour les kitesurfeurs, par exemple.
Oui, par exemple, il y aura un espace aussi de convivialité. On aura aussi, nous, une utilisation municipale. Donc, voilà, c'est de bien trouver le bon mode de fonctionnement pour que chacun trouve sa place.
Toujours dans la culture sportive, Carole Charreau, la salle numéro 2 du complexe sportif va-t-elle être rénovée?
Oui, au niveau du sol en tout cas, elle va être rénovée très bientôt, au mois de juillet. Et donc là, ça y est, les budgets sont votés depuis l'année dernière, donc ça va se faire cette année, donc on est très contents. C'est vrai que l'autre salle a été rénovée, ça donne toute satisfaction, donc on va... Là, d'ailleurs, ce soir, il y a une commission sport. On va choisir le revêtement. Donc, voilà.
Est-ce que vous pensez à une troisième salle ou c'est pas à l'heure du jour?
On y pense, mais c'est pas à l'heure du jour parce que il y a d'autres choses à financer avant. On parlait de la mairie, du pôle culturel, etc. Néanmoins, on sait que dans les 15 ans qui viennent, il faudra faire cette troisième salle. Et donc, quand on implante des équipements sportifs sur tout le plateau, c'est important de savoir où on va mettre cette salle pour pas qu'on mette quelque chose à la place. Alors, sur la commission sport, il y a eu un travail qui a été fait aussi sur la piste de BMX. La proposition de la commission sport a été retenue, à savoir le terrain multisport qui est en entrée du complexe sportif.
La cage verte,
ouais,
où les jeunes font du basket, entre autres.
Ouais, donc là, maintenant, ils feront du BMX parce qu'on va le transformer en piste de BMX. Et il y a deux terrains de tennis à côté qui sont moins utilisés. Et un des deux terrains de tennis va être transformé en multisport. Mais on pourra aussi y faire du tennis. Voilà, donc on optimise un peu les équipements et puis on trouve enfin une issue favorable à la piste de BMX. Donc voilà, ça va se faire aussi assez rapidement.
Carole Charreau, va-t-il y avoir un bassin d'apprentissage de la nage?
Alors,
que c'est dans les projets?
Alors, c'est dans les projets, voilà. Pas cette année, ça c'est sûr. On est en train d'essayer d'avoir une solution pour faire venir un bassin d'apprentissage, une piscine gonflable en fait. Hein.
Une piscine hors sol.
Voilà, ouais. Pour que les scolaires et autres puissent en bénéficier durant cet été. au mois de juillet en tout cas, on est en train de finaliser...
Juillet 2021
Oui, là, en juin et juillet. Et on est en train de finaliser aussi avec l'éducation nationale, voir ce qu'il faut comme diplôme. Enfin, c'est tout un travail en amont. Et puis peut-être pérenniser cette solution avant d'acquérir un vrai bassin d'apprentissage et de construire en dur... Bassin
d'apprentissage, piscine, non ?
Oui, c'est une petite piscine, mais d'apprentissage, c'est-à-dire...
C'est pas pour les adultes ?
Disons que si, ça peut être aussi pour les kinésithérapeutes, par exemple, avec leur passion. Ça peut être vraiment utile pour les personnes âgées qui font de la rééducation. Donc non, il n'y a pas que les enfants.
Mais ça ne sera pas une piscine grand public comme on l'entend sur le continent.
Non, être clair. La piscine, c'est aussi un autre sujet. On parlait de troisième salle à 15 ans. Je ne sais pas quelle est l'échéance sur une piscine, mais bon, on est sur des coûts qui sont autres que les différents projets qu'on évoque, avec des besoins de financement aussi en fonctionnement qui sont importants. Donc ça ne va pas se faire tout de suite. Il faut être clair avec ça.
On continue à se balader dans les projets municipaux. Le centre technique municipal au pôle d'Aigrevert va être opérationnel à partir de quand ?
De très bientôt.
Ce que vous appelez très bientôt.
D'ici la fin du mois.
Mois de janvier 2021.
Ouais, c'est ça, ouais.
Quels corps de métier vont se retrouver dans ce même lieu ?
Mais en fait, c'est l'ensemble des services techniques. Hein. Donc, il y a tout le service voirie, il y a le service bâtiment avec ses différentes composantes, maçonnerie, électricité, menuiserie. On a le service environnement aussi qui va venir, service espace vert, hein, qui va être sur place. On va avoir les mécaniciens aussi qui seront là, la polyvalence technique, la peinture, bref, c'est tout le plateau technique et puis les services administratifs techniques qui seront sur place. On construira à suivre un hangar de bus en face pour mettre les bus et puis...
Les bus et des bus.
Ouais, les bus et des bus. Et puis qui servira aussi pour confectionner les chars de la fête des fleurs 3 mois tous les 2 ans, parce qu'aujourd'hui c'est dans le bâtiment de l'aspect. Alors je voudrais dire par rapport à ce centre technique municipal, ça a l'air de rien, mais en fait cet équipement va permettre de structurer l'aménagement du territoire sur les lieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des stocks un peu partout, on a des services éclatés parce que l'ancien CTM avait brûlé. Donc nous, on va pouvoir retrouver de l'efficience, des synergies, parce qu'on va avoir toute notre pôle technique sur place avec tous nos stocks sur place, on va plus courir après les uns après les autres, donc on va retrouver de l'efficacité. Et puis surtout, on va libérer des espaces comme l'ancienne usine de l'aspect, on va pouvoir monter un projet dessus. Mais le préalable, c'est bien de faire ce centre technique municipal. Voilà, c'est peut-être moins spectaculaire pour le grand public. Néanmoins, c'est un préalable à plein de choses. Et il fallait faire ce préalable. Ça, c'était important, quoi.
Le but de ce centre technique, c'est de mutualiser et d'optimiser les équipements, en gros.
Oui, mais c'est d'avoir déjà des ateliers pour les équipes. Hein. Faut bien, nous aussi, on a des machines de menuiserie, par exemple. Il faut qu'on ait une cabine de peinture, il faut qu'on ait des locaux pour les maçons aussi, stocker du matériel, etc. etc. Les mécaniciens aussi, qu'ils aient un local, nos services administratifs, les vestiaires, etc. Donc c'est un équipement qui est important et qui, on s'inscrit dans la durée. Je disais tout à l'heure, c'était un préalable à pas mal de choses. On arrête de bricoler, à faire des choses à droite à gauche, on construit vraiment des équipements pour les 50 ans qui viennent, quoi.
Autre projet au pôle de l'Aigrevert, la recyclerie va-t-elle voir le jour et quand ?
Oui, c'est aussi pour cette année, les travaux ont démarré et elle devrait ouvrir cet automne, donc ça va aller vite.
Cet automne 2021, est-ce un travail commun avec l'association Le Courtenay qui est déjà sur ce créneau de réparer, donner pour moins jeter ?
On n'est pas tout à fait sur le même créneau parce que Une recyclerie, c'est prendre différents objets pour les remettre à disposition, à la vente. Quand l'association s'était créée, nous ça me posait un problème parce qu'en fait, à partir du moment où il y a une recyclerie sur le territoire, l'ADEME ne finance pas de nouveaux locaux. Donc nous, c'est important qu'on puisse faire quelque chose, bénéficier de cette subvention de l'ADEME. Et en fait, l'association Le Conteneur, c'est focalisé plutôt sur de l'apprentissage à la récupération, quoi.
C'est pour ça que je disais réparer, donner, pour moi.
Ouais, c'est ça. Maintenant, nous, sur le mode de fonctionnement, il faudra quand même un responsable sur place. On a l'accord des services de l'État pour faire aussi utiliser des chantiers collectifs pour, nettoyer, réhabiliter certains objets. C'est ce qui se passe ailleurs, hein, généralement, dans les recycleries. Et puis après, en termes d'animation, on a commencé à discuter forcément avec l'association Le Conteneur. Et puis, ce sont des bénévoles, donc il ne faut pas non plus trop charger la barque, mais ça nous paraît indispensable de travailler ensemble. On est plutôt sur la même ligne à ce niveau-là.
Autre projet municipal, le pôle de solidarité, c'est quoi ?
En fait, ce pôle de solidarité, il regroupe plusieurs services. Le Centre communal d'action sociale, le CCAS, qui a été un petit peu transféré d'un lieu à un autre. Là, au moins, il sera normalement dans ce pôle et il y restera. Le multi-accueil, la crèche, hein, la halte-garderie, qui n'est plus aux normes du tout. Hein, les agents, ils travaillent vraiment dans des conditions très bruyantes, et les enfants aussi. Donc, on avait à un moment donné pensé à la réhabilitation de ce lieu. Et puis, vu les coûts que ça engendrait, mais c'était pas possible. Donc, et en plus, on n'aurait pas eu un bâtiment aux normes vraiment adéquat. Donc, en fait, on s'est posé, on a dit, allez, on fait du neuf, on vend celui-ci qui va financer aussi une partie de ce pôle.
Et lui est vendu à qui, ce multi-accueil ?
Je pense qu'il va être vendu à un particulier, ou quelqu'un d'autre. Enfin bref, on va le mettre en vente. Ensuite, la MDSF. La MDSF, c'est la Maison départementale des solidarités et de la famille, qui est rue du Puy-Neuf aussi, et qui est dans un bâtiment très, très vétuste. Là, actuellement, il y a même des fuites un petit peu. Donc, il est temps que ça bouge. Donc, il y a des assistantes sociales. Il y a aussi la PMI, la protection maternelle et infantile, qui est dedans. Donc, la péricultrice qui vient tous les mois. Donc, c'est important de les accueillir dans un lieu propice à leur fonction. Et puis, tout ce petit monde va travailler ensemble aussi avec le RAM, donc le réseau d'assistantes maternelles. On va le mettre aussi ici. Donc, en fait, tous ces professionnels de la petite enfance et de l'enfance vont travailler ensemble. Et je crois que c'est vraiment une mutualisation des moyens humains. Ils vont pouvoir travailler vraiment dans la pause café, par exemple. Ils vont pouvoir discuter. C'est important aussi, ça, ce lien.
Entre DMR chaque aussi. Service.
Et il y aura aussi, la DMR, ouais. J'ai oublié, les soins à domicile, qui sont importants, et l'agent départemental qui est aussi qui officie aussi au niveau des personnes âgées de plus de 60 ans, mais à domicile. Donc toutes ces personnes vont travailler ensemble.
Où sera installé ce pôle solidarité ?
Alors, juste en face du collège, rue Clémenceau, il y a déjà eu un aménagement au niveau du trottoir. Quand les gens passent, ils se disent « Mais c'est quoi ce trottoir-là » Mais en fait, c'est juste pour le pôle de solidarité qui va voir le jour. Donc, ça sera à l'arrêt minute.
Voir le jour quand ?
On est en phase de. On a retenu trois cabinets d'architectes qui vont faire les esquisses. Hein, donc, on a fait la programmation, on a fait donc ce jury de concours qui se décidera en juin. Après, l'architecte retenu aura forcément des études complémentaires à faire, hein, diverses et variées, avec différents bureaux d'études, pour déposer un permis de construire, 8 mois après. Ils ont besoin de 8 mois d'études, plus ce permis de construire, après appel d'offres, enfin consultation des entreprises, retenir les offres.
C'est pas avant 2023, quoi.
Fin 2023. Ouais, c'est ça l'idée. Pour compléter ce que dit Carole, ça c'est que on avait des services un peu éclatés. Par exemple, quelqu'un qui allait au CCS, qui avait un besoin particulier, ah ben non, faut s'adresser à l'assistante sociale. Donc, fallait aller à côté à la MDSF. Mais non, finalement, faut redemander ça au CCS. Enfin, on balade les gens et c'est pas très efficient. Donc là, on va se retrouver avec un lieu où voilà, on a tout le monde. Sur le même plateau, donc là aussi ça va permettre de gagner en efficacité.
Bruno Nourry, maire de Lille-Dieu, vous nous avez parlé de l'aspect. Quel oui. est le projet?
Bon, nous on l'avait décliné au niveau des élections municipales. C'est un dossier complexe, l'aspect, parce que c'est un bâtiment qui est grand, donc qui coûte cher à rénover.
C'est rénovation ou vous détruisez tout, vous recommencez?
Ah non, on va rénover. Il y a un bâtiment qui tient debout, qui structurellement est sain. Donc on l'avait fait expertiser. Hein. Donc voilà, quand on construit, ce qui coûte cher, souvent les fondations et les murs. Donc si c'est les détruire pour reconstruire à la place, autant le garder quoi. Mais on a aussi le bâtiment plus loin qu'on peut plus utiliser pour cause d'amiante et pour autant on a besoin d'espaces commerciaux jouxtant le port. Enfin là, s'il y avait quelque chose de cohérent. Donc nous on souhaite réutiliser le rez-de-chaussée de l'aspect avec la surface de l'encan à côté pour créer des espaces commerciaux. Et à l'étage faire une salle voilà multifonction pour remplacer un peu le chapiteau qu'on a ici. Mais comme c'est vaste, il y a d'autres espaces. Alors on fera peut-être des espaces de coworking, des espaces pour les associations, d'entreprises, peut-être des bureaux. Bon, ça reste à définir. On veut pas aller plus loin dans la définition du programme, ouais, parce que après, sinon, on va consulter les forces vives, et puis, bah oui, mais vous venez avec un projet qui est tout fait. Donc, voilà, donc là, on va s'adjoindre le cahier des charges à l'étude, s'adjoindre les services d'un programmiste, hein, qui va nous aider à définir.
Les tranches de travaux?
Ouais, non, non, pas les tranches de travaux, les besoins, qu'est-ce qu'on veut y mettre dedans. Donc là, il y aura un travail de fait avec, je disais, les forces vives, par exemple UCA et d'autres, pour qu'on se mette d'accord un peu sur, voilà, qu'est-ce qu'on veut y mettre. Ce programmiste, après, fera le cahier des charges de consultation du jury de concours. On revient pour trouver un architecte en disant, ben voilà, dans le bâtiment, il faudra qu'il y ait ci, ça, telle surface, etc. Et après, architecte retenu, voilà, fera ses propositions. Et puis après, on fera la réalisation.
C'est un projet de longue haleine. Ça va se faire du jour au lendemain.
Oui et non.
Programmé à partir de 2025, 2026.
Non, oui et non. C'est difficile de mettre un calendrier maintenant, mais c'est forcément un projet qui sera long, mais pas trop. Hein. On n'est pas à l'échelle de 10 ans non plus, mais on sait que voilà, entre la programmation, il faut prendre le temps de cette concertation, de bien savoir ce qu'on fait dedans, hein, même si nous on a des prérequis en disant voilà, commerce en rez-de-chaussée, parce que c'est une manière aussi de financer le bâtiment, c'est-à-dire que ce bâtiment, encore une fois, il va être cher à restaurer, mais bon, les surfaces sont conséquentes. Si on a des commerces en rez-de-chaussée, ben voilà, si les loyers permettent le remboursement au moins de cette partie-là sur une trentaine d'années.
En gros, vous allez louer, par exemple, des espaces de coworking.
Ouais, enfin, je parle des espaces commerciaux en rez-de-chaussée. Déjà, ça va permettre de financer le rez-de-chaussée, on va dire, sur 30 ans. Donc, en fait, mis à part un problème de trésorerie, ça ne coûtera rien à la collectivité, cette partie-là. Après, la salle au-dessus, bien sûr, c'est l'affaire de la mairie. Donc nous, d'ici là, on aura aussi les nouveaux contrats régionaux, donc on refléchera des subventions dessus pour faire en sorte que voilà, que cette réhabilitation coûte le moins cher possible. Parce que si on met des choses qui qui n'ont pas de rendement économique, si on met trop de choses qui n'ont pas de rendement économique, on n'arrivera pas à le financer. Là aussi, il faut être clair avec ça. Et en même temps, on a ces besoins d'espaces commerciaux. Voilà, on est au début de la réflexion. En même temps, il faut aller relativement vite, hein, parce qu'il y a besoin de ces espaces. Néanmoins, on sait que sur ce genre de projet, c'est fatalement long, parce que le programmiste il va travailler plusieurs mois. Après, ça va être le tour des architectes. Hein, comme je disais tout à l'heure, quand on aura retenu l'architecte, après, elle aura bien 8 mois, 1 an d'études complémentaires, parce que le bâtiment est complexe, plus les appels d'offres et puis la réalisation. Donc, on est sur un pas de temps d'au moins 4 ans. Hein.
Ça, c'était pour l'aspect. Les projets mobilité, où en est la piste cyclable ? Rapidement, parce que là, le temps commence à filer.
Ouais. Je reviendrai sur les projets municipaux, mais la boucle cyclable, donc ça aussi, c'est un projet qui est long parce que.
On en parle régulièrement, mais n'avance pas, en fait.
Si, ça avance. ça avance vite parce qu'à partir du moment où on met le pied dans le site classé, hein, globalement, la côte sauvage. C'est pas nous qui sommes décideurs, c'est l'ADREAL. Donc voilà, il y a des allers-retours sur des points de vue, donc il faut arriver à se mettre d'accord. Bon, ça a pris du temps, hein, forcément. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur la même ligne. Hein, le projet est arrêté. Hein, arrêté, je veux dire.
Il est ficelé.
Il est ficelé.
Vous savez où vous allez.
Ouais, c'est ça. Il est déposé au niveau du service de l'État, qui vont avoir plusieurs mois d'instruction là aussi. On va pouvoir commencer les parties déjà hors. Hors site classé, et on rentre en phase de réalisation.
Hein, c'est... Début de la réalisation, quand alors ?
Dès cette année.
Dès cette année ?
Ouais.
Contournement de la rocade de Port-Joinville ? Projet, pas projet ? C'est en cours, pas en cours ?
C'est en cours depuis
30 ans.
70 ans.
Mais, là aussi,
non, c'est pas du mais. Je vais quand même rappeler la vision qu'avaient eu les élus à l'époque, il y a très longtemps, et qui était de faire cette voie de contournement de Port-Joinville. C'était une sacrée vision parce que. Il y a 40 ans, quand vous veniez de l'est de l'île pour aller vers Port-Joinville, l'unique voie d'accès, c'était la rue Pierre-Henri, puis la rue de la Croix-du-Port, à double sens. La rue Neptune ne débouchait pas, et la rue Calypso n'existait pas. Le percement de la rue Calypso, c'est, chute de mémoire, 80, 82, c'est par là, hein, c'est il y a 40 ans, donc c'est hier. Et donc, avait été imaginé une boucle autour du port. Mais pour faire déjà cette partie rue Calypso, il a fallu acheter des terrains, voir des maisons, écrouler les maisons pour passer. Ça n'a pas été rien à l'époque de faire ça. Maintenant, toutes les municipalités qui sont succédées depuis ont préempté sur le tracé de cette rocade. Bon, aujourd'hui, on a 95% de la surface. On a mis à l'étude la partie rue de Kerpierre-Borny arrivée à Super U, parce que là, on a l'intégralité des surfaces. Ça suit son cours, mais là aussi, c'est long, c'est des temps qui nous dépassent, mais si on peut commencer, c'est bien parce qu'il y a eu cette politique suivie par les différentes municipalités depuis plus de 60 ans. Si ça n'avait pas été le cas, ça ne pourrait pas se faire. Donc aujourd'hui, si ça se fait, c'est bien parce qu'il y a eu ces politiques dominées.
Ça n'a rien à voir. La maison en coquillage à côté de Percholon va-t-elle être détruite ?
Alors, pour rappel, Non, non, mais y a une polémique alors qu'il n'y a pas de décision de prise. Donc c'est bien, c'est toujours facile de nous prêter des décisions quand elles ne sont pas prises. Mais il y a une réflexion qui est menée. Alors sur l'ensemble de cette zone, la commune, là aussi, a préempté depuis des lustres, sur l'ensemble de cette zone, à différentes fins. L'une de ces fins, c'est le parking pour la gare. C'est important. Et les autres fins étaient à vocation économique. Hein. C'est quand les entreprises se sont installées à l'époque, Henquin, la station-service, etc., c'était parce qu'il y avait cette proximité du port. Et donc, quand on a préempté en face, hein, que ce soit la maison Michaud, hein, qui avait été écroulée, que ça avait fait polémique aussi à l'époque, hein, il faut le dire, c'était pour agrandir le parking, mais aussi donner des espaces aux entreprises, parce que les espaces portuaires sont petits, donc on a besoin de développement économique en lien avec notre en lien avec le maritime, ça c'est important, c'est aussi nos emplois de demain, donc il faut anticiper, et en cela les municipalités par le passé ont toujours préempté sur cette zone, et donc la maison aux coquillages avait été achetée à l'époque dans cette optique de dire voilà, et on va avoir besoin d'espace d'entreprise, d'espace de parking. Maintenant on va aller vers l'aménagement de ce parking, hein, qui est pour le moment un terre-plein où voilà, on se gare comme on peut, mais bon, il faut pouvoir l'aménager, ça coûte cher aussi, donc il faut le programmer. Et cette maison aux coquillages, on s'était dit, alors est-ce qu'on pique juste le jardin et puis on garde la maison? Est-ce qu'on écroule la maison? Maison aux coquillages, maison aux coquillages. En fait, on est attaché au nom. Je vous invite à aller voir la façade. Il y a la moitié des coquillages qui sont partis. Voilà quoi. Donc nous, on s'était dit, tiens, si on réhabilite et on refermait sur la partie arrière, pour se faire, nous, notre hôtellerie de passage, parce qu'on a besoin aussi, on a tout le temps un peu de logement à avoir pour les gens. Et en fait, on est beaucoup trop cher. Là, maintenant, alors, est-ce qu'on écroule la partie arrière, on garde la partie devant, est-ce que... Ouais, on reste tout, parce qu'il y a cet aspect économique aussi. Maintenant, aujourd'hui, c'est en cours de réflexion. Mais la décision n'est pas prise, contrairement à ce qui est dit. Hein, c'est clair.
Le dentiste sur l'Île-Dieu, il y a aussi pas mal de questions par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un dentiste qui va arriver sur l'Île-Dieu qui va rester ici à l'année? Est-ce que vous avez des informations dans ce sens à nous communiquer?
Oui, alors c'est toujours évolutif. On a eu des praticiens du continent qui, vu de l'absence de dentiste sur l'Île-Dieu, se sont gentiment proposés de venir faire à tour de rôle.
Mais c'est pas simple d'avoir un rendez-vous.
Non, c'est pas simple parce que...
C'est même long.
On avait deux dentistes et en quelques années, là, on passe sur du dépannage. Donc forcément, oui, c'est long. Hein, si on avait des dentistes qui venaient, qui s'installaient, youpi. En attendant, ce dépannage, moi je la remercie au passage parce qu'il existe, hein, ça pourrait être, il pourrait ne rien avoir du tout. Et donc, on étudie la piste de pouvoir raccrocher des dentistes au centre de santé, à savoir salarier des dentistes, là aussi c'est pas simple à trouver, néanmoins on a une piste.
On a des pistes, oui, ouais, pour ouais. Cette année, en c'est été, donc, à l'été prochain.
L'été 2021.
Ouais, donc ça va forcément évoluer.
Se décanter.
Oui, c'est ça. Maintenant, c'est pas encore acté, donc c'est difficile d'en parler, mais bien sûr ça nous inquiète, on y travaille. En attendant, je remercie encore les praticiens qui viennent faire ce dépannage, hein, parce que on pourrait ne plus rien avoir du tout, et on travaille à des solutions plus durables avec le salariat.
Carole Charot-Broumer, adjointe à la mairie de l'Île-Dieu, quel vœu formulez-vous aux résidents de l'Île-Dieu avant de se dire au revoir?
Quel vœu pour 2021 ?
Exactement.
La santé surtout, hein. Et puis profiter aussi de nos nouveaux projets qui vont sortir de terre, hein, que ce soit pour les résidents principaux, mais aussi pour nos amis les résidents secondaires. Je pense que tous ces projets vont sortir de terre et vont profiter à toute la population. Et ça, ça c'est bien. Je pense que voilà, on a travaillé pour. Et là, ça y est, on va avoir l'accomplissement de tout ce qu'on a fait durant toutes ces années.
Bruno Nourry, même question. Des vœux formulés pour les résidents et résidentes de l'Île-Dieu.
Des vœux de bonheur, de santé surtout, aux uns et aux autres, et puis de prospérité. Hein, voilà, je pense qu'on a un territoire qui peut être idyllique, hein, parce qu'on s'y sent bien, donc on a envie de s'y sentir bien. Donc on a envie de tourner la page du Covid maintenant, voilà, de tous se retrouver, de retrouver nos fêtes, la convivialité, c'est ce qui fait aussi l'âme de l'île-dieu, donc on a envie d'y être. Maintenant.
Est-ce que quand on va sortir du Covid, vous allez organiser une fête type gaulois sur le bord ?
Non, mais ça va pas être si simple, parce que même avec la vaccination, on sait bien que les gestes barrières vont continuer, etc. Donc, dans quelle mesure on pourra voilà, faire... une fête de sortie de Covid.
Une sorte de grand festin.
Ouais, mais ça, on risque de sortir petit à petit de la chose, donc ça va être compliqué, mais j'exclus pas de le faire, je pense qu'on en a tous besoin. Je voudrais revenir sur les projets municipaux, parce que...
Il reste 2 minutes.
Ouais, je vais faire vite. Mais la pression, là.
oui.
Donc, on a le CTM, là, voilà, on va rentrer dedans d'ici la fin du mois. On a la mairie, fin de... l'année, en fait, on a le pôle technique, on va avoir un vrai pôle technique, on va avoir le pôle administratif avec la mairie, le pôle culture avec service patrimoine, bibliothèque, etc. Et le pôle solidarité. En fait, on est en train de structurer les services municipaux, les services connexes, et on arrête de bricoler, quoi, de bouger les services, un coup je te mets là, et on s'inscrit bien dans les 50 ans qui viennent. Alors ces dossiers, ils ont été longs à sortir, parce que, comme j'évoquais tout à l'heure, hein, faut retenir un programmiste, hein, puis un architecte, puis etc., etc. Donc souvent les gens, quand est-ce que ça vient ? Oui, il faut du temps, c'est comme ça, les choses sont ainsi faites. Maintenant, on rentre dans une phase de réalisation, donc voilà, on voit les choses sortir de terre, donc c'est un peu plus réjouissant, mais ce travail qui est effectué, c'est bien pour structurer l'action communale pour les 50 ans qui viennent. Donc voilà, c'est de bon augure pour cette nouvelle année avec tous ces projets qui sortent enfin.
Vous l'avez compris, beaucoup de projets à venir pour la commune de l'Île-Dieu. Bruno Nourry, maire de l'Île-Dieu, merci d'être venu sur Neptune FM. À très bientôt.
Merci Roland.
Carole Charot, première adjointe à la mairie de l'Île-Dieu et conseillère départementale. À très bientôt également.
Merci, à bientôt.